C'est vrai que c'est un dimanche spécial aujourd'hui pour l'église. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'Assemblée Générale, exactement. Il y a l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale est le moment de faire le point sur ce que nous avons vécu ces 12 derniers mois et de nous projeter un peu vers l'avenir. Eh bien, il y a des textes dans le Nouveau Testament où Jésus fait l'évaluation de ce qui se passe dans les églises et où il leur propose des choses pour l'avenir. Vous voyez de quoi je veux parler ? De quel texte je veux parler ? Non ? Non. Le texte où Jésus lui-même parle, s'adresse à des églises, leur dit des choses. Non, il parle des églises.
Apocalypse.
C'est dans l'Apocalypse.
Ah oui, tu l'as dit en plus.
Et oui, je l'avais dit déjà dans la voiture que le texte de l'Apocalypse. Jésus écrit à 7 églises dans l'Apocalypse. Et nous allons aborder, méditer une de ces lettres à l'église de Thyatire. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit : Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais même que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi, tu laisses cette Jézabel qui se dit prophétesse égarer mes esclaves en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse, elle et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir ses enfants, toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu les profondeurs du Satan, comme ils disent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, restez-y attaché jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise des vases d'argile, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, dans une prédication, on va faire court, forcément, pour un texte où on pourrait dire beaucoup. Thyatire est une ville moyenne, à l'intérieur des terres, à une cinquantaine de kilomètres de la mer, dans la Turquie actuelle. La lettre à Thyatire est la plus longue des 7 du conte Apocalypse. Elle est aussi la 4e sur 7, placée au milieu de la série. Nous allons commencer en insistant sur la connaissance de Jésus, de ce qui se passe dans l'Église et les compliments qu'il lui fait. Puis nous verrons le reproche que Dieu fait à l'Église et enfin la manière particulière dont Jésus va venir au secours de son Église. Et on terminera en voyant ce que ça peut nous dire à nous aujourd'hui. Dans cette lettre, Jésus se présente comme le Fils de Dieu, titre solennel qui le relie évidemment directement au Père. Ce n'est donc pas n'importe qui parle. L'Église de Thyatire d'abord et nous ensuite. Nous sommes invités à écouter de manière particulière ce qui va suivre. La première chose que le texte affirme, comme dans chacune des 7 lettres, c'est que Jésus sait ce que vit l'Église. Je connais tes œuvres. Rien n'échappe au Seigneur. Mais comment recevons-nous une telle affirmation ? Cette connaissance nous paraît-elle gênante ou même insupportable, comme dans le psaume 139 ? Ou le fait que Dieu sache tout du psalmiste, ses gestes, ses pensées, son avenir, provoque chez celui-ci la tentation de la fuite ? Et nous avons le psalmiste qui, sur plusieurs versets, nous explique que désespérément, il essaye d'échapper au regard de Dieu, mais ça ne marche pas. Même s'il meurt, le psalmiste retrouve Dieu au séjour des morts. Parce que nous recevons le fait que Jésus connaît les œuvres de l'Église comme quelque chose de pesant. Si on le fait, on se trompe. Si Jésus sait, et s'il nous dit qu'il sait, ce n'est pas pour tout surveiller, tout contrôler, tout enfermer. Si Jésus connaît, comme dit le texte, c'est d'abord parce qu'il s'intéresse à nous, à notre vie communautaire et à nos vies personnelles. Jésus connaît notre Église à Darnay. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il s'intéresse à nous. Il a plaisir à s'informer de ce qui se passe chez nous. Peut-être trouvons-nous que notre Église est trop petite ou limitée. Mais Jésus ne va pas parler de la taille de l'Église. Il se préoccupe de ses œuvres, c'est-à-dire de sa fidélité. Qu'elle soit grande ou petite, ça change rien. Et d'ailleurs, que va faire Jésus de cette connaissance qu'il a de ce qui se passe dans l'église de Thyatire ? Eh bien, j'ai plaisir à souligner que Jésus commence par dire le positif, contrairement à nous parfois. Souvent, quand les gens parlent d'une église, ils commencent par dire ce qu'ils ne trouvent pas terrible. Non ?
Oui.
Je ne sais pas comment vous faites quand vous présentez votre église aux autres. Si vous commencez par dire « Ouais, on n'est pas très nombreux, nan, 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 nan. »
C'est vrai que c'est.
Jésus dit le positif, et je suis sûr que ça lui fait plaisir de dire le positif. Et ses compliments sont impressionnants. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance, et je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Waouh ! Waouh ! Bon, je sais pas, mais j'aimerais bien que Jésus dise la même chose de nous. Je connais ton amour. Voilà une église correctement centrée, qui ne confond pas l'important et le secondaire, mais qui a la bonne priorité, l'amour. Voilà une église qui présente une qualité d'être ensemble, une qualité de relation fraternelle. Et on peut imaginer aussi bien envers Dieu qu'entre ses membres. Une qualité de relation fraternelle à la hauteur de l'exigence biblique, à la hauteur du plus grand des commandements, à la hauteur du cœur même de l'Évangile, comme ça nous a été redit, l'amour. Alléluia. Ensuite, je connais ta foi. La foi et confiance au Seigneur. Au Sauveur meurt pour les péchés du monde, la foi par laquelle nous accueillons la grâce de Dieu. Mais la foi, ce n'est pas seulement cela. La foi, c'est aussi cette confiance en Dieu qui dirige toute chose. Cette confiance qui nous fait entreprendre, qui nous met en route pour vivre l'Évangile. Il nous fait parfois entrer dans des choses nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Par-delà la conscience de nos limites et des difficultés de l'existence. La foi, c'est ce qui libère des peurs paralysantes, des habitudes plus ou moins sclérosées, et de tout ce qui pourrait peser sur nos vies pour les limiter, et notamment pour nous empêcher d'aimer. Je connais ton service. C'est la seule mention d'un mot de la racine de service dans tout l'Apocalypse. Je connais ton service. C'est le mot qui a donné diaconie en français. Thyatire est une église qui pratique le service. Ses œuvres sont marquées par une qualité de service que tout le Nouveau Testament demande aux chrétiens. On peut dire en conclusion que non seulement les chrétiens de Thyatire portent du fruit, produisent des œuvres, mais que ces œuvres expriment les qualités essentielles que sont l'amour, la foi et l'esprit de service. Difficile de faire mieux. D'autant plus que Thyatire ajoute à ses qualités deux autres, la persévérance et la progression. Les œuvres de l'Église ne sont pas un feu de paille. Elles ne correspondent pas à l'exaltation d'un moment, à une dynamique limitée. Mais elles se poursuivent en toutes circonstances. Dans mon travail, j'ai eu affaire à une Église profondément divisée. C'était quand je travaillais à Bruxelles. Une église dans laquelle, pendant des années, tout s'était bien passé, les relations étaient au beau fixe, et d'un coup, tout s'est dégradé. Pendant le travail de médiation, nous nous sommes rendus compte que la bonne période que l'église avait vécue, avant les conflits, c'était une période de travaux, où beaucoup de personnes avaient participé par leurs compétences manuelles. Et donc, la plupart des membres se voyaient presque tous les jours sur le chantier, pendant une heure, deux heures, trois heures, parfois plus les samedis. Et donc, les relations étaient au top. Puis à la fin de cette période, on s'est vu beaucoup moins, l'organisation a montré des failles et les malentendus, les conflits sont apparus. Thyatire arrive à persévérer, quelles que soient les circonstances. La qualité de la vie d'Église dure dans le temps. Dernière chose, nous dit Jésus, les dernières œuvres de Thyatire sont encore plus nombreuses que les premières. Donc on n'est pas seulement dans une dynamique qui dure, mais dans une dynamique qui s'améliore, qui progresse. Thyatire apparemment a su échapper au piège de l'autosatisfaction, du sentiment de bien-être qui fait qu'on est si bien ensemble, qu'on cherche plus ou moins consciemment à ne rien changer. À ne pas prendre le risque d'un projet qui remettrait en question l'équilibre et la qualité de vie à laquelle on est arrivé. Thyatire continue d'aller de l'avant. Eh bien, si Thyatire l'a fait, c'est que c'est possible. Et ça devrait nous encourager, puisque le thème, c'est l'encouragement à faire le bien. Donc on est en plein dedans. Laissons-nous encourager par cela. Et continuons à avancer. J'ai l'habitude de dire que l'important, c'est pas de savoir où on est, sur une échelle de calcul de la spiritualité. L'important, c'est qu'on avance. Où qu'on soit, c'est d'avancer, de continuer à aller de l'avant. Continuons à marcher ensemble. Continuons à chercher la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui et à grandir dans l'amour et la confiance fidèle. Conservons une exigence de croissance et discernant dans quel domaine Dieu nous dirige ici et maintenant. Deuxième point, si la situation de Thyatire apparaît vraiment excellente, il y a un problème. Un seul. Mais il va être décrit et traité en quatre versets, parce que Jésus explique d'abord ce qui se passe et qu'est-ce qu'il va faire. Les chrétiens de Thyatire ont une faiblesse concernant la discipline. Ils laissent faire au lieu de réagir. Ils laissent faire certains enseignants, encore une enseignante, des questions ici. Peut-être ne savent-ils pas quoi faire ou comment faire devant une situation pareille. Une femme se dit prophétesse et enseigne. Nous rappelons-nous quand même qu'à l'époque de l'Apocalypse, il n'existe pas encore de Nouveau Testament. Les lettres des apôtres, notamment celle de Paul, circulaient sans doute, au moins certaines d'entre elles. Il y avait aussi l'Ancien Testament. Mais l'enseignement passait en grande partie par des personnes que le Nouveau Testament appelle des prophètes. Et que le Nouveau Testament associe souvent aux apôtres, les apôtres et les prophètes. Et dans la mission d'enseignement, consistait à édifier, encourager et réconforter les chrétiens. mais on n'avait pas beaucoup de critères de discernement, en tout cas pas un texte comme nous aujourd'hui, après le Nouveau Testament, qui nous permettait de discerner entre les bons enseignements et les mauvais. Il y avait des critères, notamment un que Jésus lui-même nous enseigne, c'est les fruits qu'ils portent, ces gens-là. Mais c'est aussi parfois compliqué de voir clair. Une femme qui se dit prophétesse, manière de dire qu'elle ne l'est pas vraiment. On l'appelle Jézabel, ce qui n'est probablement pas son vrai nom, mais une référence à la femme du roi Akab, qui a introduit dans le royaume d'Israël le culte de différentes idoles, profitant de la faiblesse de son mari, et qui est devenue, pour la Bible, pour l'Ancien Testament, et même aussi pour le Nouveau Testament, comme l'emblème de l'idolâtrie, le symbole de l'idolâtrie. De quoi est-ce qu'il est question exactement à Thyatire ? On a un peu de mal à se représenter, parce qu'on ne vit pas de la même manière, évidemment, mais une partie de la vie sociale et professionnelle se faisait lors des repas. Les repas se faisaient souvent par corps de métier. Les boulangers mangeaient ensemble, les tanneurs mangeaient ensemble, et créaient ce qu'on appelle des corporations. Et il fallait être dans ces corporations pour bien travailler. S'il y avait un boulanger qui n'était pas dans cette corporation, son chiffre d'affaires plongeait dramatiquement. Et ces repas commençaient toujours par un sacrifice adressé à une divinité, et chaque corps de métier avait sa divinité protectrice. D'accord ? D'une certaine manière, la culture catholique a réintroduit ça avec les saints qui sont les saints de... Chaque métier a son saint. Oui, ouais, de quoi je parle. C'est une version, entre guillemets, christianisée de ce concept-là. Ces repas commençaient toujours par un sacrifice adressé à une divinité, et au cours même du repas, il y avait des rites religieux. Par exemple, des libations. Vous savez ce que c'est qu'une libation ?
Non.
On en parle dans la Bible parfois, des libations. C'est quand, en l'honneur de la divinité, on verse un verre de vin sur la table, comme pour lui offrir ce vin. Vous voyez, pour l'honorer. Ça, c'est la libation au sens le plus technique du terme. Après, c'était toutes sortes de cadeaux qu'on pouvait faire symboliquement à la divinité. Et puis, au cours de ces repas, évidemment, on mangeait de la viande. Et la viande des animaux, à l'époque, a toujours été offerte en sacrifice avant de passer à la boucherie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis ces repas, on le sait, à l'époque du Nouveau Testament, dans l'Empire romain, étaient souvent l'occasion d'excès de table et d'orgies sexuelles. C'était la culture de l'époque. C'était comme ça que fonctionnait le monde, cet aspect-là. Bien sûr, l'enseignement habituel dans les églises est de ne pas participer à telle rencontre où se mêlait idolâtrie et débauche. Il ne faut pas mélanger le fait de manger de la viande sacrifiée aux idoles et le fait de participer à ces repas-là. Sinon, on s'embrouille. Le fait de manger de la viande sacrifiée aux idoles n'était pas en soi interdit, même si ça faisait l'objet de débats dont les chapitres 14 et 15 de l'Épître aux Romains et 8, je crois, de 1 Corinthiens, se font l'écho. Mais participer à un repas qui commençait avec un culte idolâtre et terminait par de la débauche était évidemment inacceptable pour tous les chrétiens. Mais certains enseignaient que ce n'était pas si grave de le faire. Et comme notre Jézabel dans le texte. Et souvent, ils s'appuyaient sur une conception du corps qu'on trouve dans les philosophies grecques et qu'on peut résumer ainsi. Le corps est une chose négative qui empêche l'âme de s'élever vers Dieu. Ok ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui ? Le corps avec ses appétits, ses désirs, etc. empêche l'âme de s'élever à Dieu. Et donc, une des conséquences pour certains, c'est de dire ce qu'on fait avec le corps n'a aucune importance. Vous avez ceux qui disaient on peut tout faire, puis vous avez ceux qui disaient on peut rien faire. Il faut s'abstenir de tout. Et c'était un rigorisme qui a été condamné par l'Église, et par l'apôtre Paul notamment. Et il y a ceux qui disaient on peut faire n'importe quoi, de toute façon ça compte pas. Et ça n'a pas de répercussion sur notre vie spirituelle. Et l'enseignement du Nouveau Testament, et surtout chez l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, est tout à fait différent. la manière dont nous vivons avec notre corps a des répercussions sur notre être entier. L'apôtre Paul écrit par exemple, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 13. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Etc. etc. Donc le discours du Nouveau Testament et de l'Église est que ce qu'on fait avec le corps, non seulement a des répercussions, mais peut mettre en danger notre vie spirituelle, notre relation à Dieu. Thyatire, Jézabel enseigne autre chose que l'apôtre Paul, quelque chose qui est plus en lien avec la culture ambiante. On peut vivre la débauche, ce que la Bible appelle la prostitution. Et l'Église laisse faire cet enseignement, laisse faire cette personne qui enseigne cela, ce que Jésus lui reproche. On ne sait pas pourquoi l'Église laisse faire. Est-ce qu'elle n'a pas vu le problème ? Est-ce qu'elle n'a pas vu le problème ? Parfois, l'Église ne voit pas clair entre ce qui est du monde et ce qui est de l'enseignement de l'Évangile. Pour prendre un exemple moderne, parce qu'on est exactement dans la même problématique, l'Évangile de la prospérité est un évangile articulé sur le monde moderne. Sur les discours du monde moderne, de la culture moderne, qui dit « enrichissez-vous, enrichissez-vous ». Vous l'entendez, ce truc, ou pas ? Et donc, il y a des églises qui reprennent ce type de discours, le spiritualisme, ils mettent le codacé biblique avec, et en fait, c'est juste le discours du monde, baptisé par l'Église, si je puis me permettre l'expression. Donc, fondamentalement, c'est le même type de fonctionnement. Et là, c'est vraiment évident, mais dans d'autres choses, il peut arriver qu'on n'ait pas forcément les idées très claires sur qu'est-ce que dit le Nouveau Testament de différent par rapport à ce que dit le monde. Je me souviens d'avoir entendu, mais ça fait des années déjà, hein, donc c'est pas lié à l'actualité immédiate, un patron chrétien, qui devait être une église évangélique, qu'on interviewait, et puis on lui parlait des salaires, des patrons et des ouvriers. C'est vrai, je ne connais pas du tout, j'ai entendu ça à la radio, explique que en France, les patrons ne gagnent pas tellement par rapport à d'autres pays. Et donc, pour lui, tout était bien. On ne sait pas s'il y a des gilets jaunes qui se sont levés dans son entreprise, mais il ne voyait pas le problème. Au contraire, il pensait qu'il était plutôt mal payé par rapport à d'autres. Mais donc, sa vision de l'Évangile n'était pas suffisante pour se poser des questions plus approfondies que simplement celles que ses collègues se disaient aussi. Tous les patrons français vous racontent la même histoire, à savoir que les patrons ailleurs gagnaient plus. Je l'avais entendu ailleurs, pas chez les chrétiens, cette histoire-là. Et donc, la vision qui est celle du monde, de la culture, rentre dans l'Église, on ne voit pas très bien où est le problème, et on fait finalement comme font les autres. Et c'est ce qui s'est passé à Thyatire, avec cette Jézabel. Elle enseigne un faux évangile, et elle égare les croyants. Je pense que la raison pour laquelle Jésus dit qu'il va intervenir est plus liée à au deuxième aspect qu'au premier, c'est-à-dire que son enseignement égare les croyants. C'est le souci du faible, de celui qui se laisse séduire par de telles idées, parce qu'il ne voit pas clair, parce qu'il n'a pas. C'est pas un théologien, etc. C'est le souci du plus faible qui est au cœur de la préoccupation de Jésus. Et qui aurait dû être au cœur des préoccupations des membres de l'Église de Thyatire, ou en tout cas de ses responsables. Ce souci du plus faible est central dans la discipline, quand il faut en faire. Moins on a besoin d'en faire, mieux ça vaut évidemment, mais ce souci du plus faible habite Jésus et devrait nous habiter nous aussi à certains moments. Jésus ne se contente pas de relever la passivité de l'Église, et c'est mon troisième point, il annonce qu'il va lui-même agir. D'abord, Jésus a laissé à Jézabel le temps pour se repentir. Mais elle a refusé. Il y a toujours le temps de la grâce avec Jésus. Mais à un moment, ce temps s'arrête. Et Jésus ici intervient pour protéger son peuple. passer le temps de la grâce et la rendre à chacun selon ses œuvres, et punir l'endurcissement, le refus de la repentance de Jézabel. On peut trouver ça sévère, mais ce qui est génial plutôt, c'est de dire que Dieu met une limite au mal. Si Dieu ne mettait pas des limites au mal, on se ferait tous submerger par lui. Dieu dit à un moment, ça suffit, stop. Dieu va faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Il le fera surtout à la fin des temps, mais à certains moments, il anticipe ce jugement. Et c'est ce qui va se passer à Thyatire. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Après le temps de la repentance, vient celui du jugement. On peut se retrouver tous à un moment donné sur un mauvais chemin. Et ne même pas s'en rendre compte. Dans les situations où il m'arrive d'intervenir, les gens se retrouvent sur des chemins que je trouve bizarres parce que leurs émotions commandent. Leur peur ou la colère commandent leur attitude envers les autres, avec lesquels ils sont en conflit. Et ils se font du mal à eux-mêmes, mais ils font aussi du mal aux autres, en étant dans cette dynamique de tension et d'agression réciproque. Et heureusement qu'à un moment, quelque chose se passe qui protège l'Église et l'aide à aller plus loin. J'essaye d'expliquer à ses frères, ou j'ai essayé, c'est dans les situations que j'ai rencontrées, de prendre un autre chemin que celui d'être pris dans les émotions, dans la colère, dans la peur et dans l'agression. Mais c'est difficile. Et souvent, les gens ont du mal à entendre ça. On refuse de pardonner, on refuse d'aimer son ennemi, de trouver le chemin d'aimer son ennemi. On se dit, en écoutant le texte de Luc, qu'on a entendu avant, qu'aimer son ami, c'est vraiment très compliqué. Mes chers frères et sœurs, si on ne travaille pas cela quand tout va bien, c'est foutu quand ça va mal. Vraiment, je le dis clairement ici. Si nous ne travaillons pas, aujourd'hui, à accueillir cette parole de Jésus, qu'elle nous interpelle, dans tout ce qu'elle peut nous dire par rapport à notre propre intériorité, le jour où on se retrouvera dans une situation de réel conflit, ça sera trop tard pour apprendre à aimer son ennemi. Pour ne prendre que cet exemple-là. On peut prendre un mauvais chemin et avoir du mal ensuite à s'arrêter et à se repentir. Je voudrais conclure en disant, retenons ce matin que Jésus s'intéresse à nous, à notre église à Larnay. Et que, à travers les textes de l'Apocalypse, les lettres aux églises, il nous invite à faire le point sur notre vie communautaire, sur notre vie fraternelle, à partir de son enseignement. Mais ça signifie, et je voudrais insister vraiment là-dessus, que ça commence par un regard bienveillant sur tout ce qui va bien. Ça commence par un regard bienveillant, joyeux et reconnaissant pour tout ce qui va bien. Et c'est peut-être une chose qu'on a besoin de développer. Et ensuite, dans un deuxième temps, un regard lucide sur le chemin qui reste à parcourir, certaines choses qu'il faudrait améliorer, voire même changer. Mais toujours dans cette perspective de la grâce de Dieu qui nous enveloppe et qui nous aide à avancer. Ce que je dis là sur la communauté, c'est valable aussi pour chacune de nos vies. Nous avons besoin de temps en temps de faire le point de nos vies spirituelles personnelles, et là aussi avec d'abord de la bienveillance et ensuite de la lucidité. Et que dans les deux cas, nous puissions nous regarder et regarder nos frères et sœurs à travers les yeux de Jésus, tels que nous les voyons dans l'Apocalypse, à travers sa bienveillance. Que Dieu nous y aide.
Amen.
Amen.